grand plaisir de partager avec des entrepreneurs, avec des fans de design thinking, avec bref, tous ceux qui apprennent quelque chose, que ce soit individuellement ou collectivement. Tous ceux qui décident aujourd'hui de développer des produits ou des services, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec eux. Je suis Pape Gane, je suis expert en entrepreneuriat. Je travaille depuis une dizaine d'années dans l'écosystème, notamment dans diverses ONG. J'ai été chef de projet chez Synapse dans les années 2008-2012, responsable incubateur en 2014. Après, j'ai travaillé sous le programme YALI, Centre régional leadership de Dakar, pendant 3 ans, les 3 premières années, avant d'aller chez Make Sense comme business developer en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, chez Pussy Planet International comme expert en plus. Donc, en gros, mon boulot de tous les jours, c'est de s'occuper des outils entrepreneuriales qu'on a dans la zone et des projets qu'on développe pour les entrepreneurs. Et en même temps, j'ai une passion qui est de partager sur des questions qui me semblent innovantes, notamment les approches telles que le design thinking. Donc voilà en gros. Alors, pour parler de design thinking, il faut dire spécifiquement, je vais commencer par dire que c'est pas, je ne sais pas si vous voyez mon écran.
Oui, le
Ouais, mon écran
partage d'écran a commencé.
a commencé.
Est-ce que c'est bon pour les autres?
Les autres?
D'accord.
C'est
C'est
bon?
bon. Oui.
OK. Au début, je rappelle que c'est une méthodologie d'innovation pour penser à un produit ou un service qu'on peut appliquer soit quand on est entrepreneur, qu'on peut appliquer individuellement, qu'on peut appliquer même chez nous. Je vais juste survoler un peu c'est quoi exactement. Puis après, on va entrer dans le vif du sujet. Et après, les gens qui auront des questions peuvent directement le poser sur le chat, la partie chat. Vous pouvez poser vos questions et puis je vais regarder. En même temps, je vais répondre. À la fin, on aura une deuxième partie où ce sera plus interactif, où les gens peuvent activer leur micro et pour poser leurs questions. Donc, quand on
D'accord.
revient globalement sur la méthodologie, elle nous permet de penser à un produit ou un service dès le début, l'étape d'idée jusqu'à sa mise en œuvre. Donc, elle permet de donner une visibilité, hein, elle permet à la personne de voir concrètement son idée, comment elle est complexe, comment elle est incertaine, mais comment elle va se dérouler dans le temps. Donc, et c'est une méthodologie que beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, beaucoup d'entreprises utilisent dans le design des produits et des services. Vous voyez que c'est parti du monde anglophone, c'est parti d'un contexte où Apple, Coca-Cola, Ford, etc. utilisaient. Et après, finalement, ça s'est généralisé. Et il y a eu beaucoup d'écoles qui ont écrit sur le design thinking, comme San Francisco, l'Université de San Francisco. Il y a beaucoup aujourd'hui d'ouvrages disponibles en ligne. Mais c'est quoi exactement? Parce que beaucoup pensent design et design thinking. Design, c'est vraiment le visuel. Quand je vois ces deux éléments-là, la maison, quand vous la designez, quand vous travaillez sur l'aspect visuel factuel ou la voiture, vous faites du design. Donc, beaucoup font la nuance, beaucoup font la, 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 la beaucoup, en fait, ont du mal à cerner design et design thinking. Design spécifiquement, c'est vraiment tout ce qui est visuel, tout ce qui est packaging, tout ce qu'on peut voir de l'objet. Par contre, le design thinking, c'est de voir derrière un problème, comment moi je peux apporter une solution ou développer en termes de solution ou de produit, avec une approche, comment je peux développer aujourd'hui un produit qui fit à un besoin, qui répond à un besoin spécifique d'un problème. Comme par exemple la cardiopathe qui a été testée par un entrepreneur et qui permet aujourd'hui de tester les battements cardiaques et de voir un peu l'état de cardiologie d'un patient. Donc, en gros, c'est une manière créative de résoudre un problème en proposant un service qui répond considérablement à un besoin à travers l'innovation, l'idéation et l'implémentation. C'est les 3 phases. L'innovation parce que l'inspiration parce que il faut être inspiré d'abord. Il faut beaucoup d'observation. Ça, c'est la phase une des phases principales. Après, il faut beaucoup d'idéation. Il faut beaucoup réfléchir sur l'idée, sur comment ça va marcher, à quoi ça va ressembler, etc. Et après, il faut implémenter, il faut aller dans l'itération, il faut tester. Il faut tester, retester, recevoir des feedbacks continuellement des utilisateurs et améliorer le produit ou le service. Donc, en gros, elle est basée sur la trilogie. Moi, ce que j'appelle la trilogie, elle est basée sur un mindset. C'est d'abord un état d'esprit. Parce que quand on n'a pas cet état d'esprit, on peut rien faire. On va penser que tout ce qu'on a fait, c'est bon. Donc, d'abord, avoir cet état d'esprit, de se dire que ce que je suis en train de faire n'est jamais bon. Ou du moins, ce que je suis en train de faire n'est jamais parfait, ne répond pas à 100% aux besoins. Donc, il faut toujours avoir cette envie-là de challenger votre produit ou votre service. Avec généralement trois piliers. Le premier pilier, c'est l'empathie. C'est super important. On ne peut pas faire du design thinking sans empathie. Ce n'est pas possible. Le deuxième pilier, c'est la créativité. Et le troisième pilier, c'est la rationalité. Donc, l'empathie... Donc, l'empathie, pour penser, en fait, pour réfléchir, pour se mettre à la place de l'utilisateur, de celui à qui on va designer le produit, c'est à celui à qui notre produit ou notre service est destiné. La créativité, c'est de voir de quelle manière, de la manière la plus créative, aujourd'hui, on peut répondre à ce besoin ou à ce service-là. Et enfin, le dernier élément, c'est la rationalité. La rationalité, oui, aujourd'hui on a ce produit, on a ce service, mais comment ça va marcher? Est-ce qu'aujourd'hui, le produit, le service, il est bon, quoi? Est-ce que rationnellement, je peux faire de l'argent avec ce produit-là ou ce service-là? Donc, ça, c'est les trois piliers. Donc, après, la méthodologie, elle est axée sur, quand on la découpe, elle est axée sur cinq phases. L'empathie qui revient, la phase définition, la phase d'idéation, la phase de prototype et de test. Donc ça, c'est en fait le Stanford. Mais après, il y a des versions plus évolutives de process qu'on utilise dans le design thinking. Pour chaque phase, il y a des exercices à faire quand on pense en produit ou en service. Donc, le premier pilier, c'est vraiment l'empathie. C'est vraiment observer son environnement, observer l'utilisateur ou le client, ou observer celui à qui est destiné le produit ou le service dans son environnement. Pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire, en fait, le comprendre d'abord, et afin de faire des interviews, de mener des interviews, de faire du shadowing, et d'essayer de comprendre comment il vit, comment aujourd'hui il veut ce produit-là, quels sont ses besoins. Et comment, en principe, quand je vais développer une solution, à quoi ça devrait ressembler pour elle? Donc, ça, c'est l'empathie. C'est la phase où on se met dans la peau du client, où on se met dans la peau de l'utilisateur. Et on essaie d'engager une certaine discussion pour pouvoir comprendre, en fait, son environnement afin de... C'est la première phase. Après, il y a différentes manières. Tu peux faire des interviews, tu peux aller discuter avec les clients. Tu peux faire des personas. Les personas, c'est de redessiner carrément les clients. Parce que quand on dit client, il y a différents types de clients. Il y a le vieux, il y a la vieille, il y a la jeune dame, il y a le jeune homme. Pour chaque type de client, comment il veut ce produit ou comment il veut mon produit ou mon service. Donc, tu peux designer. Tu peux faire des personnages et tu peux voir un peu leur parcours. Donc, ça, c'est la phase empathie. Quand on finit de faire ça, on va aller maintenant définir, en fait, c'est quoi le problème. Aujourd'hui, le client, il veut utiliser l'application pour faire quoi? Il veut utiliser la solution, la plateforme pour faire quoi? En prenant la décision d'acheter via l'application, qu'est-ce qui le pousse réellement à venir acheter avec l'application? C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive sa décision d'achat? En venant sur l'application, quels sont ces challenges, quelles sont ces difficultés? Et ça, c'est vraiment un point très important, parce que quand vous arrivez à identifier les difficultés, les pain points que le client a, vous avez forcément après développé des éléments de réponse. Je prends un exemple, j'utilise une application qui est très compliquée, où je dois venir me loguer, où je dois avoir déjà de la data, où je dois me loguer, mettre mon nom, mon prénom, après où je dois mettre mon numéro de CIN, après où je dois payer par Orange Money et je dois ressortir, aller chercher un code temporaire, code de paiement temporaire sur Orange Money et je dois revenir remettre le code. C'est des difficultés très souvent pour un utilisateur. C'est pas simple. Donc, dans la phase de définition, vous devez circonscrire les pain points. Quelles sont les difficultés que l'utilisateur a face à la solution ou face au produit et vous le dessinez. Donc, ça vous permet d'avoir les parcours et ça vous permet de savoir qu'est-ce qui motive les décisions d'achat et quelles sont les difficultés, les patterns. On dit entre guillemets patterns, vous les dessinez. Après ça, savoir quand on a fini de classer, de pouvoir faire des customer journey, de pouvoir designer comment la maman utilise. Je donne l'exemple de l'application de la plateforme. Comment la maman utilise la plateforme? Comment le jeune utilise la plateforme? Comment la femme utilise la plateforme? Comment par exemple l'adulte utilise la plateforme? Et pour chaque type de client, il faut voir les motivations. Qu'est-ce qu'il parcourt? Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui en venant utiliser mon produit, mon service? Quelles sont ses motivations? Quelles sont les frustrations? Et vous avez après une idée des personnalités que vous avez qui utilisent le type de service. Donc, vous pouvez savoir à peu près à 90% les besoins et les types de personnes qui utilisent votre produit ou votre service et comment ils l'utilisent. Et en fonction de ça, vous allez maintenant discuter autour de votre idée de prototype ou idée de solution. Donc là, c'est vraiment la phase d'idéation. L'idéation, vous la posez. Vous savez aujourd'hui, le client, qu'est-ce qu'il veut, comment il le veut, quelles sont ses difficultés. Et face à ça, maintenant, vous passez à la phase d'idéation. Moi, si je dois répondre à ce client-là, quel serait le produit idéal ou le service idéal que je dois avoir, que je dois mettre en place. Et à partir de là, j'essaie de voir, de discuter avec les parties prenantes. J'essaie de discuter avec des partenaires, j'essaie de discuter avec j'invite des utilisateurs, j'invite des partenaires financiers, j'invite peut-être des gens qui sont dans le dev. Donc, toutes les personnes qu'on appelle parties prenantes qui tournent autour du projet, du produit ou du service, tu les invites sous forme de sessions. Ça peut être des sessions de brainstorming, ça peut être des sessions créatives, mais tu les invites et tu leur dis, OK, voici les personas que j'ai, les différents types de personas que j'ai avec des besoins. Comment aujourd'hui je dois développer un produit qui peut répondre à ça quoi, et qui peut satisfaire tout le monde. Donc ça, c'est la phase d'idéation. Les gens vont donner des idées. Beaucoup d'idées vont sortir. Et parmi ces idées, il y a des idées qui vont converger. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui vont aller ensemble, il y a des idées qui vont diverger, qui ne vont pas aller ensemble. Et maintenant, à partir de ça, tu priorises. Tu regardes les idées qui convergent, tu les mets en corrélation avec les idées qui divergent, et à partir de là, tu peux avoir une vue, ce qu'on appelle le potluck. À partir de là, tu dessines ton potluck. C'est-à-dire, à partir de là, tu peux savoir comment, à peu près, ton produit ou ton service devrait fonctionner pour répondre à ces cibles-là. Tu as un potluck d'idées que tu poses. Ça, c'est la phase idéation. Quand tu sors de la phase idéation, tu as priorisé. Maintenant, tu vas aller travailler sur ton prototype. Tout produit ou service doit avoir un prototype de départ. Le prototype, c'est le premier produit que test que tu vas présenter. Si c'est une application, c'est l'application elle-même. Même s'il n'est pas online, c'est la version bêta, quoi. Si c'est la plateforme, c'est la plateforme host, la version host que tu as développée. Que tu vas présenter comme prototype pour dire, OK, face aux différentes étapes que j'ai suivies arriver jusqu'ici, voici comment je vois moi, voici mon premier prototype. Si c'est un service, on est dans le domaine des services, on vend par exemple de la formation, on vend du contenu, on fait du conseil, il faut le designer. Il faut designer ta cartographie de service. Il faut avoir une cartographie de service pour dire, OK, voici ce que je propose. En termes de service, si je fais du conseil, voici les points sur lesquels je fais du conseil et voici comment je le fais.
Donc, si aujourd'hui j'ai un projet à mettre en œuvre, les étapes de design thinking que je dois suivre, c'est déjà l'idéation, le prototypage et le test, que ce soit pour un produit et un service.
Oui, que ce soit pour un produit ou un service. Même le produit ou le service, tu dois empathiser. En fait, tu dois respecter la phase empathie parce que tu développes un service pour qui?
D'accord.
Tu développes un service. Je fais du conseil, mais je fais du conseil pour qui? Mm-hmm. Est-ce que je fais du conseil pour des corporates? Est-ce que je fais du conseil pour des étudiants? Est-ce que je fais du conseil pour des personnes qui sont à la recherche de boulot? Mm-hmm. Est-ce que je fais du conseil pour des gens qui sont dans l'intérim? OK, c'est pour qui?
Ça vient avant l'idéation.
Cela, quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce qui les intéresse? Les corporates dans le conseil, qu'est-ce qui les intéresse? Tu vas chercher à savoir.
D'accord.
Ceux qui sont dans l'intérim, ils ont un objectif précis. Ils veulent quelque chose. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais tant que tu ne discutes pas avec ces gens-là, tant que tu ne fais pas une série d'interviews avec ces gens-là, ce qu'on appelle du shadowing, Donc, tant que tu ne fais pas du shadowing avec ces gens-là, tu ne peux pas comprendre leur réalité. Et parfois même, on demande aux entrepreneurs, à celui qui design un produit ou un service, de passer une journée, de passer des journées avec eux sur le terrain. Je veux savoir, par exemple, quand je fais faire du conseil pour des gens dans l'intérim, comment une journée d'intérimaire se passe? Un intérimaire, un seul day-to-day, comment il fait sa journée, etc. Donc, ça, des inputs. Et cette partie, elle est super importante parce que c'est cette partie qui va te permettre d'avoir une première visibilité sur le client ou du moins sur l'utilisateur. OK? Après maintenant qu'on a fait, il faut un prototype. Parce que sans prototype, tu ne peux pas aller dire, OK, tu ne peux pas aller dire, donnez-moi de l'argent ou venez investir sur mon projet ou je veux faire ça. Tu vas dire, oui, je veux faire ça dans les idées, mais tu n'auras rien à présenter.
Si je devais designer une application pour les étudiants, par exemple, une application de e-learning, donc j'aurais tort de me dire que je comprends ma cible, mon utilisateur ou mon client. J'aurais tort de m'enfermer dans mon bureau, de développer l'application de A à Z sans pour autant prendre le temps de voir quels sont les pain points, quelles sont les frustrations, quelles sont les expectations, quelles sont, en tout cas, comment voir ma cible ou mon utilisateur, le service ou le produit que je vais lui
produire. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut éviter de s'enfermer et de penser à la place de l'utilisateur. Et très souvent, c'est ce que les gens font. C'est faux. C'est pourquoi beaucoup de produits ou de services aujourd'hui ne marchent pas parce que derrière, dans la conception même, les gens autrement se sont enfermés pour penser à la place de l'utilisateur. Et ça, c'est pas bon. Et c'est le défaut, en fait. C'est un peu le problème qu'on a avec des ingénieurs concepteurs, avec des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup dans la conceptualisation. Ils pensent souvent pour les autres, mais ils n'associent pas dans l'étape de l'idéation, de brainstorming, ils n'associent pas, en fait, les utilisateurs. Alors que toi, tu le fais pour eux. Si à la base, tu ne les inclus pas dans la réflexion, ça pose problème. Peut-être qu'il y aura ça ne va pas marcher. Donc, il faut impérativement faire l'empathie et il faut impérativement faire la phase d'idéation avec ta cible. Ça, c'est super important. Maintenant, après, quand tu finis de faire l'idéation, quand tu finis de faire l'empathie, tu définis en fait les objectifs. Tu sais qu'est-ce qui motive les objectifs, qu'est-ce que l'utilisateur cherche. Tu connais quels sont ses besoins. Tu connais quelles sont les difficultés, les pain points qu'il rencontre aujourd'hui pour avoir ce type de service-là. Tu peux passer au prototype. Tu peux penser à maintenant un prototype qui peut répondre à ça. Je donne un exemple. Tu développes une plateforme pour les millions de Sénégalais, sachant qu'il y a des millions, on est à peu près 6 à 7 millions d'utilisateurs du mobile, mais il y en a pour la grande majorité qui ne savent pas ni lire ni écrire. Et tu dis, le service que je vais faire, la plateforme publique que je vais faire est destinée à un service public. Et c'est bête. Et tu ne simplifies pas, tu ne prends pas en compte ceux qui sont dans les régions qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais qui ont au moins un smartphone, qui peuvent utiliser WhatsApp et qui ont un compte Orange Money. Ça pose problème. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives qui sont lancées, très souvent des plateformes qui sont lancées ou des produits qui sont lancés, ils ne marchent pas alors qu'on a mis beaucoup de temps, alors qu'on a payé cher souvent pour le développer. Les gens communiquent sur ça et puis après, on se rend compte qu'au bout du fil, les gens ne l'utilisent pas. Les gens préfèrent continuer à utiliser les habitudes traditionnelles qu'ils avaient, c'est-à-dire venir sur place, acheter au lieu de passer par l'application ou la plateforme. Parce que c'est... Ouais. OK. Après, maintenant, la dernière étape, quand on a fini d'avoir un prototype, tu peux avoir des bêta-testeurs, tu peux avoir des groupes d'utilisateurs qui testent en premier, tu peux tester sur un échantillon. Tu peux prendre, par exemple, un échantillon. Ils vont aller tester la plateforme. Si c'est un produit ou un service, tu peux le mettre. Tu peux aller trouver des partenaires qui peuvent le vendre. au début, qui découvrent le produit et qui te disent, OK, le produit, il est bon sur ça, les gens l'achètent, voici ce que les gens pensent à améliorer telle ou telle chose. Et finalement, jusqu'à ce que tu as ton produit qui marche, quoi, ton go-to-the-market, comme on dit, le MVP. Quand tu trouves ton MVP, tu le lances. Mais il faut tester. Et dans le test aussi, quand tu testes, tu dois itérer, que tu dois recevoir les feedbacks. Tu fais de l'itération, tu reçois les feedbacks, tu améliores. Tu reçois les feedbacks, tu améliores. Et le test, souvent, on le dit, hein, on n'a jamais de produit fini. Moi, je n'aime pas le terme produit fini parce que pour moi, il n'y a jamais de produit fini. C'est à l'image de ça, de ce schéma-là. On est tout le temps, en fait, en itération. On est tout le temps, on a un produit. Aujourd'hui, on est tout le temps en itération. On itère jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui est assez clair. Mais même ça, même quand on arrive à l'étape du design ici, la dernière étape, après le concept, on a quelque chose, c'est pas fini, quoi. C'est un produit qui est sous-tendu dans l'amélioration. Je donne un exemple, par exemple, quand on voyait la première version de l'appli Orange Monnaie d'Orange, et aujourd'hui, vous voyez la version qu'on a, c'est qu'en même temps, ils ont fait beaucoup d'itérations, ils ont testé beaucoup d'éléments, ils ont amélioré beaucoup de pain points que les gens avaient, par exemple, sur l'application. Aujourd'hui, ils arrivent à avoir un produit qui est assez stable, mais qui n'est pas fini. Donc, le test, ici, c'est la dernière étape. Il faut tester. Et quand on teste continuellement. On n'a jamais de produit fini. Et ce qu'il faut surtout éviter, et c'est par là où peut-être que je vais m'arrêter et puis prendre les questions, inéluctablement, quand on conçoit un produit ou un service, on tombe amoureux. On pense que c'est notre bébé parce on a passé plus de temps à le faire pendant des mois, à y penser à le faire, et finalement, on tombe amoureux sur le produit. Il ne faut jamais tomber amoureux de son produit. Parce que quand on le fait, tu vas dire, oui, je suis le concepteur, oui, c'est moi, c'est mon produit, etc., c'est mon service. Mais quand tu le fais, finalement, tu ne te rends pas service, sans pour autant ne pas le savoir. Et tu vas toujours dire que ce que tu as fait, c'est bon, alors que ce que tu as fait, on peut toujours le challenger. Donc voilà, en gros, de manière assez ramassée, les phases, en fait, qu'on utilise dans le design thinking. Et à chaque étape, il y a des exercices à faire. Il faut empathiser, il faut faire dans l'empathie. Après, il faut faire des interviews, il faut faire du shadowing, il faut comprendre l'utilisateur. Après, dans la phase définition, il faut poser des personas, les découper, voir un peu les parcours utilisateurs. Après, il faut faire de l'idéation. Dans l'idéation, il faut prendre les idées des parties prenantes qui convergent, qui divergent. Et après, tu essaies de poser tes idées, d'avoir une idée sur comment va ressembler ton prototype. Et maintenant, tu passes en prototype pour aller monter. Si c'est un produit ou un service, si c'est un produit, tu sais que ouais, tu as aujourd'hui un produit à présenter. Si c'est une application, tu as déjà une version que tu peux présenter. Si c'est un service, tu as déjà le designé, quoi. Aujourd'hui, tu as une plaquette ou tu as quelque chose qui te présente le service. Comment ça va marcher, comment ça va se faire. Ou tu l'as modélisé. Et après, maintenant, une fois que tu finis de prototyper, tu testes et tu rentres dans la phase itération continue. Donc, voici en gros la méthodologie. Et puis, à chaque niveau, il y a des éléments. Et des exercices, il y a des éléments pratiques qu'il faut faire. Il faut parfois aller sur le terrain et il faut prendre les inputs des uns et des autres à chaque étape et il faut améliorer le produit qu'on a. Donc, c'est ça en gros. Et puis après, il y a une matrice qu'on fait. Elle est là, la matrice. C'est qu'est-ce qui marche dans le produit que j'ai, dans le premier prototype que j'ai. Qu'est-ce que je dois améliorer en suivant les retours des utilisateurs. Après, est-ce que j'ai des idées nouvelles? Parce qu'il y a toujours des idées nouvelles qui vont arriver. Et une fois que tu as des idées nouvelles, tu améliores. Et il y a vraiment une série d'exercices qu'on fait faire, par exemple, aux entrepreneurs sur différents niveaux. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas assez de temps, peut-être, et que c'est une introduction, on pourrait peut-être on pourrait éventuellement faire des sessions pratiques. Quand la situation redeviendra normale. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, on les prend. Merci. s'il y a des questions sur les différentes étapes, yeah, pour les prendre. Je pense que ton micro n'est pas allumé, Mahadi.
C'est bon, vous me recevez?
Oui, on te reçoit.
Oui, ma question, c'est par rapport au processus de design thinking. Oui, tout ce que vous avez dit comme cocktail de compétences, comme travaux, tâches à faire et tout. Ce que je me demande, c'est si le design thinking est en tant que tel une approche pluridisciplinaire. Je vois que vous parlez d'empathie, je pense aux sociologues, aux anthropologues. Vous parlez de design en tant que tel. Il y a l'aspect technique qui est là. Il y a tout ce qui est informatique, tout ce qui est IT, tout ce qui est design. Si aujourd'hui, moi, je veux lancer, par exemple, mon application de e-learning et que mon domaine de prédilection, c'est le marketing, la communication, comment je dois m'organiser pour assurer que toutes les étapes du processus de design thinking soit respecté et que tout ce que j'ai comme données puisse être agrégé, analysé pour que je puisse prendre en considération tout ce qu'il y a comme nécessité afin de venir sur un produit qui convient à mes consommateurs. Processus, ouais. Je parle de
tout le processus.
Idéation, prototypage, etc.
Ouais, il faut soit essayer d'abord. La première des choses qui est plus difficile, c'est de comprendre comment utiliser la méthodologie. Ça, c'est super important. Après, il faut faire un dashboard sur chaque étape. Et pour chaque étape, il faut définir, il faut identifier ce que tu vas faire. Donc, quand tu fais la phase empathie, est-ce que tu vas faire des interviews? Est-ce que tu vas aller discuter avec les clients, etc. Et qui doit le faire? Quand tu finis de faire l'empathie, tu dois faire une session où tu dois définir ton idée, où tu poses ton idée. Et là, tu as besoin des inputs. Durant cette session de brainstorming ou de créativité, qui va y participer? Et comment je vais recouper après les idées qui vont sortir là-bas pour le mettre quelque part où je peux synthétiser? Là, ça doit sortir dans le dashboard avec des tâches spécifiques. Après, on a recueilli des inputs sur la phase empathie, idéation. On doit maintenant passer à définition. On doit passer à l'idéation. On a fini de faire l'idéation. Maintenant, on doit prototyper. Pour prototyper, qu'est-ce que j'ai besoin? Et après, pour chaque composante, il y a des compétences que tu n'as pas, que tu dois aller chercher. Quand je fais un prototypage, peut-être que moi, je n'ai pas les compétences techniques. Il me faut des gens dans le dev. Dans mon équipe, peut-être, je dois me tourner vers des gens qui savent faire du dev. Je dois aller voir des gens qui savent modéliser, qui me font une première modélisation, qui me sortent, en fait, qui vont me sortir les grandes idées de comment l'application ou la plateforme va marcher. Ça, il faut le faire. Et une fois que tu as maintenant ton prototype, tu vas le lancer. Mais tu vas le lancer. Avant de le lancer, tu dois définir qui sont les testeurs. Je veux le tester avec quelle communauté pour avoir le retour. Comment ça va marcher? Et combien derrière, surtout une question qui revient toujours et qui est très importante chez les partenaires, c'est le business model. Parce que sans business model, tu as développé un très bon service ou un très bon produit. Mais si le produit peine à générer des revenus, si derrière tu ne penses pas à comment le produit serait, les étudiants vont l'utiliser, mais les étudiants soit vont payer, ou bien comment derrière tu vas faire payer d'autres utilisateurs pour te permettre de générer, en fait, de maintenir les coûts, peut-être que oui, tu auras fait la meilleure plateforme, mais après ça ne va pas tenir très longtemps. Donc il y a tous ces aspects-là. Et ça, pour ça, l'aspect planification rentre en jeu. Savoir poser des objectifs, savoir les découper dans un dashboard, savoir identifier des tâches et des sous-tâches et savoir identifier pour chaque tâche qu'est-ce qu'il me faut, quelle est la compétence qu'il me faut pour le faire et quels sont les moyens qu'il me faut pour le faire. Et c'est comme ça qu'on construit un dashboard assez général, quoi, un plan de travail. Maintenant, ça, il faut l'apprendre planning, à faire des rétro-planning, à identifier des tâches et à identifier les ressources nécessaires pour exécuter ces tâches-là qui te mèneront à l'objectif global. Ça, c'est de la planification. Et ça, les entrepreneurs ont besoin de faire ça. Sinon, peut-être que tu vas tourner en rond pendant très longtemps, tu vas avancer sur certaines parties, mais il y a d'autres parties qui vont manquer. Et finalement, tu te rends compte qu'au bout de quelques mois, tu n'as pas avancé réellement sur ton projet.
D'accord, Fab. Juste revenir sur deux termes. Quels sont les pain points? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi business model. Si tu devrais l'expliquer à un profane, qu'est-ce que tu allais dire?
Les pain points, c'est les... Mm-hmm. Ouais, les pain points, c'est les difficultés que quelqu'un rencontre dans l'utilisation d'un produit ou d'un service. Ça peut être des difficultés d'acquisition. Le produit, ça peut être des difficultés pour se faire livrer, ça peut être des difficultés sur le moyen de paiement. Mais en gros, c'est une difficulté. Moi, je veux acheter ce produit-là, mais j'ai des difficultés pour acheter ce produit-là. OK. Quelles sont ces difficultés-là? Business model, c'est de manière très simple, modèle économique. Je veux vendre ce produit. Aujourd'hui, j'ai en fait mes manques de Casamance qui sont arrivés, je peux aller les vendre. Mais je les vends où? À qui? À combien? Ça, en fait, je fais une application que je dois mettre en ligne, mais derrière, je dois générer des revenus. Mais comment les gens vont payer avec l'application? Comment je vais gagner de l'argent avec l'application? C'est ça, en fait, en gros, qu'on appelle business model.
D'accord. Nous allons prendre des questions. Vous pouvez soit écrire au niveau du chat ou activer votre micro. Je vois Alamine qui lève la main. Oui, vas-y.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui.
Salut, Pape. C'est Lamine.
Lamine, oui. Ça va?
Ça va bien?
Bien, merci.
Ça va, alhamdoulilah. Bien. Alors, tu pourrais revenir sur le process pour l'idéation.
OK.
Je ne l'ai pas suivi.
OK, d'accord. Alors, l'idéation, elle est là. Je vais repartager mon écran. Ouais. Donc, sur l'idéation, c'est qu'une fois que tu as fini de faire, d'empathiser, d'avoir un peu les pain points, de savoir les besoins du client, derrière ses motivations, tu as découpé tes personas, tu sais à peu près les types de clients que tu as. Parce que là aussi, j'insiste. Souvent, moi, j'accompagne des entreprises, mais souvent, quand je dis le produit est destiné à qui, ils me disent au client. Je dis, mais à qui sur les clients? Voilà. Dans un marché, tu as des niches. Quels sont les segments de clients, pour reprendre les termes en marketing? Est-ce que c'est pour des jeunes? Est-ce que c'est pour des femmes? Est-ce que c'est pour des vieux? Est-ce que c'est pour des gens qui travaillent en milieu professionnel, en milieu urbain? Est-ce que c'est pour des gens qui sont en milieu rural? Quel type de persona? Et pour chaque type de persona, comment ces personnes-là, quel est le parcours d'utilisation par rapport pour avoir ce produit-là? Aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui vend ce service, qui existe déjà. Comment ces gens font pour aujourd'hui aller acheter ce service-là? Et quelles sont les difficultés que ces gens rencontrent pour acheter ce service? Et à partir de ça, quand tu as tous ces éléments-là, maintenant tu fais une session sur l'idéation où tu poses les idées qui convergent et les idées qui divergent. Ça peut être une session créative, hein. Ça peut être aussi un brainstorming collectif avec des gens qui sont tout autour du projet. Vous essayez de voir quelles sont les idées qui convergent, quelles sont les idées qui divergent. En fonction maintenant des idées qui reviennent, le plus souvent, vous priorisez. Peut-être que vous n'allez pas répondre à toutes les difficultés ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité à l'étape où vous êtes de régler tous les problèmes. Mais au moins, peut-être qu'il y a un problème de livraison par rapport à ce type de service, ou il y a un problème de paiement par rapport à ce type de service. Nous décidons d'innover, d'apporter un service et peut-être de régler le problème de paiement ou de livraison. C'est comme ça, en fait, que la phase idéation se fait. Au sorti de l'idéation, vous devez savoir comment va ressembler votre prototype ou votre produit. Je finis de faire l'idéation. Je sais qu'aujourd'hui, mon produit, là, il doit ressembler à ça. C'est-à-dire que tu as une idée de comment ton produit doit ressembler et comment ça doit marcher. Donc, c'est ça. Mais une fois maintenant que tu as fini de faire l'idéation, tu passes au prototype. Tu vas aller dire, OK, au gars, écoute, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme, elle doit être comme ça. Elle doit avoir ces fonctionnalités-là. Et les utilisateurs doivent pouvoir venir sur la plateforme, faire ça et ça et ça, et puis payer. OK? Est-ce qu'il y a des questions?
C'est bon, question? Alamine.
C'est si bon. C'est bon pour...
On laisse la parole aux autres. S'ils ont des questions, soit écrire au niveau du chat, soit lever la main ou activer son micro directement.
Question?
Alors, Pape, on est dans un contexte de COVID-19. Okay. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises en œuvre par les jeunes. Mm-hmm. Si aujourd'hui, par exemple, comme cas, je voulais proposer une solution en réponse à la lutte coordonnée contre le coronavirus, ça devait être quoi? Et si je devais passer par les étapes? En résumé, qu'est-ce que cela allait donner?
Il faut d'abord
parce
observer...
Comme on parle d'un problème, aujourd'hui, le problème, c'est une crise sanitaire qui aujourd'hui a des implications autant dans le domaine économique, autant dans l'éducation, autant socialement et tout. C'est ça le problème. Étant donné que dans une approche de design thinking, il faut user de créativité pour offrir une solution à ce problème social, quel pourrait être les résultats de ce processus.
Ouais, il faut c'est très bonne question. Il faut voir déjà ce qui converge. Il faut voir déjà le problème, il est là aujourd'hui, on est dans un constat. On a fait le constat, on est dans le corona et puis tout le monde se bat pour contre le corona. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives de plateformes, il y a beaucoup d'initiatives de campagne. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui manque? Ou bien qu'est-ce qui rendrait plus performant toutes ces initiatives-là? Qu'est-ce qui peut unir, en fait, ou qu'est-ce qui viendrait, qu'est-ce qui manque sur la chaîne? Qu'est-ce qui viendrait aujourd'hui accompagner ou mutualiser toutes ces initiatives-là pour avoir plus d'impact? À partir de là, tu poses tes idées pour aujourd'hui dire, OK, est-ce que je ne vais pas créer une plateforme pour fédérer tout le monde? Ou est-ce que je ne vais pas aujourd'hui créer une plateforme pour donner plus de visibilité à toutes les initiatives aujourd'hui de soutien au Sénégal? Pour dire, OK, allez, si vous allez sur la plateforme, vous tapez Mbour, vous tapez Chess, vous tapez Dakar, vous avez toutes les infos des gens qui aujourd'hui mènent des initiatives pour lutter contre le corona, etc. Donc, je donne des idées comme ça, mais c'est vraiment brainstormer, c'est vraiment réfléchir sur ces questions-là, sur cette question-là, afin de pouvoir maintenant dire, OK, sur les idées que j'ai reçues, voici peut-être une idée qui me semble pertinente de développer et à partir de là, commencer à identifier les acteurs et commencer à aller discuter avec ces acteurs-là pour commencer ta phase d'empathie. Donc voilà, globalement.
D'accord. Maintenant, on est en temps de crise. On sait qu'il y a une urgence. La situation nous est tombée dessus comme ça. Est-ce qu'en période de crise, on utilise le même processus de design thinking qu'en période où tout va bien, où on a le temps de faire l'empathie, de faire l'idéation, de faire le prototypage, de réfléchir et d'adapter la solution. Est-ce qu'il y a dans ce cas de figure une étape qu'on va sauter ou en tout cas, qu'est-ce qui se fait en période de crise pour très vite aller dans le sens d'un processus de design thinking?
Alors l'étape peut-être interview physique tu vas pas le faire parce qu'on est en état on est en période de crise, on peut pas, tu vois, physiquement rencontrer les gens, mais virtuellement on peut échanger avec peut-être des clients par téléphone pour savoir aujourd'hui, ou des acteurs par téléphone via n'importe quel moyen digital pour avoir un peu le retour. Tu devais faire une session de brainstorming physique avec des gens. Sur la partie idéation, tu ne peux pas le faire, mais tu peux créer une classe en ligne où tu peux discuter avec des gens. Tu peux poser des idées, animer et recueillir des inputs des gens. Après, maintenant, forcément, quand tu dois travailler pour la modélisation ou pour le prototypage, tu dois avoir quelqu'un, la partie technique. Aujourd'hui, tu pouvais la faire à distance, même s'il faut se voir, mais d'une manière assez restreinte pour pouvoir travailler dessus. Mais je pense que l'approche ne change pas en elle-même. C'est juste s'adapter en fonction de la situation. Tout ce que tu devais faire de physique aujourd'hui que tu peux faire via le digital, via les outils qu'on a au niveau via les outils qu'on a sur en ligne, tu peux utiliser les outils pour le faire, mais l'approche, elle reste la même approche. Il faut segmenter, il faut empathiser, il faut après définir, faire l'idéation, prototyper et tester. L'approche, elle ne change pas. Et l'approche, on la retrouve. On retrouve, par exemple, dans mon business model Canva. J'ai des parties, je retrouve les parties du design thinking dedans. Quand je réfléchis sur le modèle économique, quand je réfléchis sur comment je vais distribuer le produit, quand je réfléchis sur les coûts, quand je réfléchis sur comment ça va marcher. Ouais. Quand je réfléchis sur comment ça va marcher, je retrouve en fait les mêmes parties, du design thinking dans le business model. Quand je fais aussi un exercice sur la VPC, la Value Proposition Canva, et quand je regarde les difficultés, quand je regarde le produit qui existe déjà ou le service qui existe déjà, je regarde les difficultés que le client ou l'utilisateur rencontre par rapport à ce type de produit ou ce service-là. Je fais du design thinking. Il y a une partie en fait de l'idéation, il y a une partie de l'empathie que je suis en train de faire dans la VPC. Donc, en gros, le design thinking reprend tous ces exercices que tu fais à côté ou sur lesquels tu réfléchis sur ton produit ou ton service. Quand tu reviens sur la matrice du design thinking, tu l'as. C'est pourquoi on dit que c'est une approche assez complète, quoi.
Alors, nous allons prendre des questions. Est-ce que vous êtes là? On me comprend que vous avez tout compris. Maintenant, vous êtes des experts en design thinking. Comme vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire au niveau du chat, sinon levez la main ou activez directement votre micro et posez vos questions.
Hello, bonsoir.
Hello.
Hello.
Oui,
hello. Vous m'entendez?
Oui, c'est bon, pour le soir.
Monsieur Papa, félicitations pour la présentation. Bon, j'aimerais vous poser juste une question. Par rapport au design thinking, en fait, il est basé sur quel modèle? Parce que si on parle de design thinking, on fait référence, par exemple, aux différentes phases de développement d'une application. Mm-hmm. Parce qu'en tant que développeur, bon, il y a des phases à respecter, c'est-à-dire la collecte d'informations, la phase design ou bien l'intégration des mock-up et la phase après implémentation.
Tout à fait.
Parce que pour le développement d'une application, soit on opte pour la méthodologie Scrum ou bien la méthode Scrum, qui nous permet d'avoir des différentes sprints ou bien phases, ce qu'on appelle phases.
Ouais.
Et des feedbacks sont permis au niveau de la méthodologie Scrum. C'est-à-dire le Scrum Owner ou bien le Scrum Master peut directement dialoguer avec le client et à partir des retours du client, il peut changer soit son application ou bien ajouter d'autres touches fonctionnelles. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, avec le design thinking, elle est effectivement basée sur quelle méthodologie de développement? Et aussi, l'autre chose, est-ce qu'on ne peut pas, en tant que développeur, bon, j'ai eu peur, hein, par exemple, si on a un projet de grande envergure, est-ce que le temps qu'on va passer sur le design thinking ne va pas dépasser le temps qu'on passera sur le développement? Ça aussi, c'est une interrogation.
Ouais, deux bonnes questions. Alors, il y a toute la partie qu'on retrouve sur les méthodes Scrum, UX, on le trouve dans le design thinking. Ça fait une partie. Yeah. Donc, à la question de savoir, elle est basée sur quelle méthodologie. Le design thinking est né vers les années 80 et c'est Stanford qui a été l'école, la première université américaine à le tester, à conceptualiser, à poser les étapes. Maintenant, après, en tout temps, l'industrie du développement IT a beaucoup évolué. Donc, il y a eu des méthodes Scrum, il y a eu même une méthodologie System Thinking. Aujourd'hui, les gens parlent de Scrum et d'autres méthodologies de développement donc, qui ont été créées par différentes écoles, hein, différentes pensées. Mais ce qui est là, c'est que chaque méthodologie n'est pas au fond aussi différente de l'autre. Les développeurs peut-être l'ont adapté pour créer Scrum pour aller plus vite. Alors que généralement, moi je dirais le design thinking englobe tout ça, englobe toutes les méthodologies aujourd'hui qu'on crée, notamment la VPC, notamment tout ce qui est UX, méthodologie UX, tout ce qui est Scrum, vous le retrouvez en partie dans le design thinking. Maintenant, pour aller vite, les secteurs ont choisi de développer leur propre approche plus vite pour découper rapidement, avoir les feedbacks rapidement, développer, prototyper et développer une application ou un service. Mais on retrouve du design thinking. Quoi qu'on puisse dire, on retrouve du design thinking. Le fait, par exemple, d'avoir un premier prototype, d'aller en itération, de revenir prendre les pain points des utilisateurs, de travailler sur ces pain points-là d'amélioration, vous faites du design thinking. Vous faites une partie du design thinking. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas dire, en fait, on ne peut pas définir des frontières. On ne peut pas dire, OK, ça c'est du design thinking, ça c'est du Scrum, ou ça c'est du system thinking. Non, on peut juste dire, OK, dans la méthodologie, dans le potluck qu'on a du design thinking globalement, dans les différentes phases qu'on a du design thinking, voici nous ce qu'on prend, qui nous intéresse, qui nous permet dans notre secteur d'aller plus vite. Mais si on peut respecter, moi mon conseil, et ça je le donne à des gens qui sont des product owners, ceux qui travaillent, ceux qui réfléchissent autour des produits, moi je leur conseille toujours, même si ça prend du temps pour concevoir, c'est vrai que parfois on a l'urgence du temps, on a les délais, on a les deadlines, on te dit ok, on doit ça tu dois l'avoir, on doit avoir ça à telle date. Même si on a les deadlines, on essaie toujours de le faire bien, parce que je préfère prendre du temps pour faire quelque chose qui marche que aller très vite produire quelque chose après qui va être vu 10, 15 fois ou qui ne va pas marcher. Voilà en fait mes éléments de réponse par rapport à ta question, mais elle est pertinente. Hein. D'accord. Sur le dev.
L'autre question, ouais. C'est par rapport au coût et le temps.
Oui. Il y a vraiment du temps, il y a vraiment des coûts pour faire du design thinking. Parce que quand on veut le respecter jusqu'au bout, ça nous prend du temps et ça a des coûts.
D'accord. Donc, bon, en guise de complément, est-ce que je peux ajouter une autre question?
Oui.
Par exemple, si on développe soit une plateforme, hein, mm-hmm. on peut le faire soit en version web. Et si, par exemple, le client opte de l'avoir aussi en version mobile, est-ce qu'on est obligé de le faire sous les différentes formats, c'est-à-dire pour la version web et la version mobile? Par exemple, si on va faire du design thinking, on le fait pour ces deux supports-là, web et mobile, par exemple.
Oui, on doit le faire différemment. On doit, parce que peut-être l'utilisateur, le concept en tant que tel et le service en tant que tel, l'objectif commun ne va pas changer. Mais ce qui va changer, c'est comment les moyens d'utilisation. L'autre, il l'utilisait sur une plateforme web et il va peut-être après l'utiliser différemment sur l'application. Donc, le design, comment ça va se présenter sur l'application, va différer de la plateforme web. Par exemple, ce qu'il aimerait voir sur un ordinateur sur son écran va différer de ce qu'il aimerait voir, par exemple, quand il utilise son mobile. Donc, il y a tous ces éléments-là, il faut prendre en compte. Mais il faut surtout la partie idéation et la partie prototype, il faut segmenter ce que l'on veut réellement sur l'appli et ce que l'on veut sur la plateforme. Moi, je donne un exemple. Je travaille beaucoup sur le développement de produits, de plateformes d'accompagnement. Mais quand je vois les plateformes qu'on a faites web et quand je vois la partie mobile, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et on a fait beaucoup d'itérations, on a eu beaucoup de retours des clients, des utilisateurs sur comment le faire, sur comment ils voulaient ça. Et à partir de là, je dis souvent aux devs, reprenez, faites ça, enlevez ça. Parfois, on avait même fait des cahiers de charges, parce que souvent, on fait des cahiers de charges. On définit des TDR, on dit voilà comment on le veut. Mais avec le temps sur le terrain, en écoutant les utilisateurs, je reviens toujours pour dire, OK, on enlève tout ce qu'on avait fait parce que ce n'est pas bon. Voici en fait les retours terrain que j'ai eu et il faut qu'on le fasse comme ça. Mais souvent, c'est vrai que c'est frustrant pour ceux qui sont dans la partie technique. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours, mais il faut le faire.
Okay. Oh, merci beaucoup. Hein.
C'est bon.
C'est bon, merci beaucoup.
Ouais. Et la finalité de tout ça, encore une fois, la finalité de tout ça, c'est de faire que le produit marche chez l'utilisateur. Et que quand l'utilisateur va l'utiliser, il se sentira à l'aise. Il sentira que le produit est simple et il sentira que le produit est facile d'utilisation. Comme on dit, et d'ailleurs, quand tu prends les deux principes de développement, c'est que ça va être simple et que ça va être aussi facile à utiliser. Simplicité et facile d'utilisation. Quand le produit allie ces deux éléments-là, il marche quoi, forcément. Je prends WhatsApp. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde, celui qui peut écrire son message, mais celui qui ne peut pas écrire, il peut utiliser le vocal. On peut tout faire. ceux qui ont développé l'appli, ils ont pensé à ces deux choses-là. Comment aujourd'hui on peut développer une application de discussion où celui qui peut écrire peut l'utiliser pour écrire, mais celui qui ne peut pas écrire ni lire, il peut utiliser un vocal pour tout faire et envoyer des vidéos, envoyer des messages, etc. Tout faire comme celui qui peut écrire, qui peut lire et écrire. Donc c'est ça en fait le principe. Dans tout quoi. Comment aujourd'hui je dois développer une appli ou une plateforme qui est facile d'utilisation et qui va marcher pour tout.
Ok.
Merci Fabien. Il y a une question de Yengel Boutou. Ah. Il demande quels sont les principes du design thinking.
Ok.
Il nous a rejoint en cours de présentation. De
OK, bon, il n'y a pas de principe, il y a juste des parties. La première partie, c'est l'idée, c'est l'empathie. C'est là où tu écoutes l'utilisateur ou le client. Qu'est-ce qu'il veut? Et comment, quelles sont ses difficultés? Et comment il le veut? Ça, c'est la phase. Et tu as des inputs à ce niveau. Après, tu passes à la deuxième phase qui est de définir et de circonscrire. Dans, le client, il va te dire, j'ai beaucoup de problèmes, par exemple, pour payer, pour se faire livrer. Quand je vais sur l'interface ne change pas ou ne charge pas, etc. Bon, après, tu as toutes ces idées-là. Et parmi ces idées, tu définis ton cadre d'action. Tu te dis, OK, vu qu'il a des problèmes de paiement, nous, on va régler le problème de paiement. Tu définis. Maintenant, pour régler le problème de paiement, peut-être que le prototype on doit le faire comme ça. On idéate. C'est la phase d'idéation. Après, tout ça, comment ça va marcher, on le met sous un prototype. Et quand on a un prototype maintenant, et qui est bon, on pense maintenant à le tester. Donc, c'est ces cinq phases-là qu'il faut utiliser dans la méthodologie. Il faut empathiser, il faut définir les problèmes, ou du moins les difficultés. Il faut aller dans la phase d'idéation pour poser les postulats, comme j'ai l'habitude de le dire. Et après, une fois qu'on a les postulats qui sont posés, on passe au prototype. Et une fois qu'on a fini de prototyper, on teste. C'est ça la méthodologie.
C'est bon, on a répondu à ta question. Est-ce qu'il est là?
Oui, papa.
Oui.
Oui.
Oui, Mme Diarra, tu nous reçois. Moi, je ne t'entends pas.
D'accord. En fait, vous me recevez là, c'est bon?
Oui, là, c'est bon, oui.
D'accord. Alors, on voit beaucoup d'initiatives. Par rapport aux différentes problématiques, on voit beaucoup d'initiatives de jeunes. Mais on se rend compte qu'on a des problèmes pour pérenniser nos activités. Alors, est-ce que dans le processus, il y a des outils qui nous permettraient éventuellement d'anticiper sur des problèmes qui pourraient être vecteurs d'échecs? Voilà.
OK. Non, oui, il y a la phase, quand déjà dans l'idéation, on pose ces postulats-là. Avant même de faire le prototype, on doit se poser la question, oui, on a aujourd'hui, on aura ça. On aura une plateforme ou on aura un produit, tel produit. Comment ça va marcher. Derrière, qu'est-ce qui va maintenir, en fait, qu'est-ce qui va maintenir soit les ventes ou qu'est-ce qui va maintenir son utilisation dans la durée. Quand les gens vont l'utiliser, quel est le retour que nous, on y gagne. Quel est le business model, le modèle économique derrière. Comment les gens vont payer. Est-ce que ça va être payant, ça va être gratuit. Si c'est gratuit, qu'est-ce qui va supporter les coûts. Parce que quand on parle de pérennité, très souvent, et ça, c'est la question qui va revenir quand vous allez discuter après avec des partenaires techniques ou financiers, ce qui les intéresse le plus. Si tu peux avoir la meilleure idée, mais ce qui va les intéresser, c'est comment ça va marcher et comment ça va être durable. Ce qui va motiver qu'ils investissent sur le projet, c'est ça. Donc, ton idée que tu as aujourd'hui, comment ça va marcher et comment derrière tu vas faire de l'argent avec. Qui va te permettre de le rendre durable. Parce que si derrière, il n'y a pas d'argent, bon, écoute, ça peut marcher pendant un temps, mais après, ça va pas faire long feu, quoi. Ou si derrière, c'est 100% gratuit, et que derrière, tu ne trouves pas les moyens de faire du sponsoring ou de faire payer peut-être des encarts publicitaires, par exemple, pour s'agissant d'une plateforme. Derrière, tu ne trouves pas les moyens de soutenir l'idée, le produit ou le service, ça ne va pas faire long feu. Donc, même dans le cadre d'une association, même dans le cadre d'un projet caritatif ou dans le cadre d'un projet à but non lucratif, les gens doivent penser à la durabilité. Qui sont les relais? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vais toujours continuer à venir faire les formations? Si je, demain, je ne suis pas là, il y a... Derrière, on ne forme pas des relais sur place, sur le terrain. Est-ce que dans chaque localité, on n'a pas des gens qui sont formés et qui peuvent le faire sans doute? De telle sorte que demain, quand moi, je ne suis pas là, l'activité puisse se faire sans moi. Donc, ça, c'est vraiment dans tout. Hein? Dans tout. Il faut vraiment réfléchir sur ces aspects-là. Et c'est dans la phase d'idéation qu'on pose ces postulats-là.
Bon, je lis la question qui est revenue. Si tu as fini, c'est bon.
Oui, c'est bon.
Il a expliqué les étapes, mais en fait, je demande s'il y a des principes du design thinking. Je m'explique. Devons-nous garder à l'esprit plusieurs principes lorsqu'on démarre un nouveau projet dans lequel nous appliquerons des outils et des méthodologies de design? En même temps, Papsi, tu peux faire revenir la présentation pour qu'on puisse avoir un aperçu sur les outils et autres, et qu'on puisse après aller chercher de plus amples informations.
OK. Alors, oui, il y a, comme on dit, il y a un principe fondateur du design thinking, c'est que tout idée qu'on a au début, c'est bon. On ne juge pas. C'est pourquoi ici, dans la partie empathize, la partie empathie, on a des interviews, on a du shadowing, on essaie de comprendre et on ne juge pas. Au départ, on ne dit pas cette idée est bonne, cette idée est mauvaise. Toutes les idées qui viennent au début, c'est un pot-luck. Il faut mettre beaucoup d'idées. Et on discute, en plus de ça, on va aller discuter avec les utilisateurs pour prendre leurs inputs, pour prendre leurs idées, pour savoir eux comment aujourd'hui ils voient le produit ou le service. Si c'était eux qui allaient le faire. Après, on définit, toujours on garde le pot-luck d'idées qu'on a, on fait des personas. Sur le type de client qu'on rencontre ou le type d'utilisateur qu'on rencontre, pour chaque type d'utilisateur, on fait son persona. De chez lui, comment il arrive à utiliser, à commander mon produit ou mon service et comment il paye. Et quelles sont ses motivations et quelles sont ses difficultés. C'est ce qu'on appelle un persona. Quand vous le découpez, quand vous écrivez et que vous découpez ce persona-là, vous le posez, vous savez, Mahadi qui habite Chess, comment aujourd'hui, quel est son parcours utilisateur, comment il vient utiliser, comment il fait pour avoir le produit et quelles sont ses motivations et quelles sont ses difficultés, ce qu'on appelle les personas. Après, les personas, on garde toujours les idées qu'on avait au départ. Et c'est pourquoi, on dit dans la phase idéation, on partage des idées. Toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas d'idées mauvaises. Il faut mettre ensemble les idées qui divergent et les idées qui convergent. C'est-à-dire que tout ce qui vient, il ne faut pas dire automatiquement ça, ce n'est pas bon, je ne le prends pas. Non, il faut laisser à court les idées. Et après, maintenant, il faut prioriser. Il va arriver un moment où tu ne vas pas tout régler. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas recevoir beaucoup de problèmes au départ des utilisateurs, mais tu ne peux pas tout régler. Maintenant, tu priorises. Tu décides de dire, OK, sur tel aspect, le produit, par exemple, il était mal livré. Moi, je décide de le livrer, de travailler que sur la livraison. Le produit, par exemple, il n'était pas emballé, il était mal présenté. Moi, je vais jouer sur la présentation. Le produit, par exemple, les gens ont du mal à payer sur le moyen de paiement. Les gens veulent payer aujourd'hui avec tout ce qui est mobile money. Ou les gens, avant, ils voulaient payer que par carte. Pour avoir ce produit-là, moi, je décide de l'amener sur un paiement mobile ou de l'amener sur un où la personne peut rester chez lui à la livraison, il paye. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et une fois qu'on a fini de faire ça, on fait notre prototype. Le produit ou le service que je vais faire ou je vais vendre, à quoi ça va ressembler? On design notre prototype. Et quand on a notre prototype, notre premier prototype, on peut aller tester. Et quand on le teste soit sur des bêta-testeurs ou bien un groupe d'utilisateurs. Et ce groupe d'utilisateurs-là va encore revenir sur le produit pour te donner d'autres inputs de comment eux, ils voient le produit après test. Et ça te permet d'itérer. L'itération, et des gens sur le produit et d'améliorer le produit. Donc, voilà en gros. Mais oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de principe fondateur qui te guide. Ce qui fait la pluralité et ce qui fait chaque niveau tu es ouvert, tu restes ouvert, tu prends les inputs des uns et des autres, mais tu dois après synthétiser pour aller vers l'essentiel.
Allô?
Oui, Alamine.
Oui, en fait, moi, je voudrais contribuer dans ce sens-là. Mm-hmm. Pour moi, peut-être, s'il y avait des principes, si tu as une idée, il faut commencer par une idée. Ensuite, essayer de rassembler toutes les idées qui... Tu essayes de diversifier les idées, en fait. Tu essayes, mm-hmm. par exemple, tu commences par général. Ensuite, tu entres dans un processus qui te permettrait de te centraliser sur sur une seule idée qui permet de résoudre ce problème-là. Ensuite, ouais. dans ce sujet-là, tu essaies de généraliser un nouveau concept et ensuite, tu itères en faisant quoi? En revenant directement sur un seul problème.
Sur ce même type de produit ou ce même type de service, peut-être qu'il y a beaucoup de difficultés sur l'approvisionnement, sur comment les gens l'utilisent, sur comment les gens payent. Mais toi, tu peux jouer sur un élément. Tu peux choisir de dire, OK, je joue. Ça, c'est un élément aujourd'hui qui pose problème. Moi, je décide de spécifiquement m'atteler sur ça et de régler ce problème-là et de me différencier des autres. Et voilà, quoi. Mais, toujours est-il que tu règles un problème, quoi.
Merci. On prend une autre question ou une contribution. Pape, ma question à moi, ce serait de demander si le design thinking s'applique seulement à des produits ou des services ou dans la globalité des solutions digitales ou ça mm-hmm. peut se prêter à toute problématique de prise en charge d'un problème.
Ouais, moi je dis c'est une méthodologie que tout le monde peut utiliser, que ce soit service public, service privé, entreprise, gouvernement. Même les gouvernements aujourd'hui, ils commencent à l'utiliser, ils commencent à penser utilisateur, ils commencent à voir comment aujourd'hui définir des plans qui vont répondre aux besoins des populations à la base et comment les inclure dans la réflexion. Ils font de l'empathie. Sans pour autant le savoir. Mais beaucoup, ceux qui le savent aujourd'hui, il y a beaucoup d'itérations qui est fait à différents niveaux pour pouvoir maintenant prendre une décision collectivement. Donc, les pouvoirs publics, c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui le principe de gouvernement ouvert. Il y a aujourd'hui une association mondiale sur tout ce qui est gouvernement ouvert. C'est pour permettre une libre participation des citoyens à la base, à la prise de décision au niveau collectif. Donc, c'est du design thinking. Donc, on peut l'utiliser étant pouvoir public, on peut l'utiliser étant partenaire public, on peut l'utiliser étant aussi secteur privé, entreprise. Même chez toi, moi j'ai l'habitude de dire, tu as une manière de faire. Même chez toi, tu dois changer, tu dois pouvoir réfléchir à comment améliorer ce que tu fais chaque jour chez toi. Tu as une routine, tous les jours, tu fais face à des challenges peut-être ou à des difficultés chez toi. Tu dois pouvoir penser comment régler ça ou comment changer mm-hmm. la manière dont les gens fonctionnent. Dans ton microcosme, quoi. Donc, c'est pourquoi, moi, je dis, c'est pas focus IT. Et beaucoup pensent que quand on parle de design thinking, c'est IT. Non, c'est pas que les ceux qui sont dans les IT, c'est pas que pour les privés, c'est pas que pour des produits IT, non. C'est ouvert, c'est une méthodologie. Même dans les universités aujourd'hui, on pense utilisateur, on pense étudiant. On pense comment mieux donner du contenu pour que les étudiants puissent aujourd'hui être à l'aise dans l'acquisition des compétences. Dans la formation professionnelle, on pense aujourd'hui plus d'approche par les compétences APC qu'avant donner des cours théoriques. Avant, c'était juste voilà, le prof qui était là, qui était là. Ça va, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense que les gens, de plus en plus dans le monde où nous sommes, sont conscients de ça et puis de plus en plus la méthodologie serait utilisée à différents niveaux. Voilà.
D'accord. Il y a une question posée sur le chat qui demande de revenir sur le Customer Journey, de quoi okay. il s'agit et quelles sont les étapes.
OK. Customer Journey, c'est simplement le fait d'identifier le parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, c'est-à-dire que moi, PAP, aujourd'hui, je vais acheter la box, la fun box d'Orange. Comment je fais, sachant que j'habite Dakar, j'habite l'ICICAP, comment je fais aujourd'hui quand je veux l'acheter? Je vais d'abord sur la plateforme d'Orange pour voir le type de produit que je veux. Je regarde les spécifications techniques. Après, je décide soit de me rendre à l'agence. Et en me rendant à l'agence, je fais la queue, je prends le ticket, j'attends qu'on m'appelle, je demande, voilà, voici le produit que je veux acheter. Et ils vont me dire, OK, donne-nous ta pièce d'identité. Ils vont prendre mes références, etc. Après, ils vont me donner un petit ticket, je vais aller à la caisse payer. Après, je reviens leur donner la facture. Après, ils vont me faire le bon de livraison. Après, ils vont me donner le modem. Et puis, je repars chez moi, je l'installe. C'est ce qu'on appelle un parcours utilisateur. Si vous arrivez à le designer dès le départ, vous pourrez avoir les difficultés. Par exemple, moi, je trouve que le temps d'attendre chez Orange, notamment l'agence qui est plus proche de chez moi, qui est l'agence GEDO, je trouve que le temps d'attente est assez long. Et je trouve qu'il y a, dans le parcours, il y a trois étapes qu'on peut faciliter, qu'on peut rendre plus simple. Déjà, le vigile ne m'accueille pas bien. Le vigile me demande ma pièce d'identité, j'arrive, on me dit, OK, donne-nous ton numéro de téléphone, on va t'appeler, assois-toi, je m'assois, et puis après, il y a quelqu'un qui me reçoit, qui me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Après, on me demande encore ma pièce, après, on me donne un ticket, on me dit, va payer. Donc, tout ça, là, c'est du temps perdu. Si en interne, le service décide d'améliorer le service, ils vont dire, OK, lui, il perd beaucoup de temps, il trouve qu'il perd beaucoup de temps, comment on peut faire pour aller plus vite? Pour répondre à un besoin spécifique, pour répondre à un problème que je rencontre chez eux. Et ça, si tu arrives à le faire, quand tu vends un produit ou un service et que tu arrives à le faire pour tous les types de personnes qui viennent acheter ce produit ou ce service-là, tu auras réalisé les Customer Journey. Et l'utilité des Customer Journey, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les difficultés que le client rencontre dans l'acquisition du produit ou du service et après de trouver rapidement des solutions soit intermédiaire ou des solutions définitives pour régler, pour améliorer le type de service. C'est ça, Mahadi.
Est-ce qu'on aura autant de parcours clients que de personnes ou c'est juste pour une solution, on aura juste un seul parcours client?
Non, pour une solution, on aura autant de parcours clients. Parce que peut-être que moi, la manière dont je veux, les difficultés que j'ai, peut-être que c'est différent de la personne âgée qui a aussi un autre besoin, ou ça va être différent peut-être de la personne, de la jeune fille ou de la jeune dame, etc. Donc, c'est pourquoi on dit il faut faire des parcours clients pour chaque type d'utilisateur. Quand tu as la vieille dame, quand tu as le vieux monsieur, quand tu as le jeune, quand tu as le moins jeune, il faut essayer de découper chaque type d'utilisateur, il faut essayer de faire son parcours utilisateur pour voir quelles sont les difficultés. Mais souvent, les difficultés convergent. Hein. En gros, généralement, quand on les pose et qu'on les analyse, on voit qu'il y a certaines difficultés qui se recoupent, notamment sur le gain de temps, notamment parfois sur les moyens de paiement, notamment, par exemple, sur les allers-retours qu'on te fait faire. Et ça, si tu es en interne et que tu travailles dans les process, tu peux vite faire aller proposer des process pour simplifier, pour aller plus vite, pour faire gagner du temps au client et pour le satisfaire, par exemple, sur les moyens de paiement ou le moyen de commander. Maintenant, Orange, maintenant, sur la fibre, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré. Avant, il fallait se rendre à l'agence. Il fallait remplir, il fallait partir avec une facture d'eau ou d'électricité là où tu habites. On t'enregistre. On regarde est-ce que dans la zone où tu es, on peut te brancher à la fibre. Après, on te dit, OK, rentre chez toi. On va t'envoyer un technicien. L'équipe technique va venir faire l'étude. Après, l'équipe technique qui vient faire l'étude, qui te dit, OK, c'est bon. Après, il y a un autre groupe qui va venir installer. Aujourd'hui, ils ont changé de méthodologie. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu rentres sur la plateforme, tu géolocalises toi-même ta maison, là où tu habites, tu mets ton nom et ton prénom, tu leur donnes toutes les informations en ligne et automatiquement, tu reçois un email de confirmation. Après, il y a une équipe technique qui t'appelle, qui vient, qui regarde si c'est bon, ils viennent t'installer la fibre. Je trouve qu'ils ont amélioré. Ça, c'est du customer journey. Ça, c'est des points, des patterns qui règlent, c'est des problèmes qui règlent. Donc, tu n'as plus besoin de te déplacer à l'agence pour faire tout le tralala, au final, pour avoir le service. Tu peux le faire à distance. C'est des points comme ça, c'est des éléments comme ça qui font qu'on fait des customer journey.
Merci beaucoup. Dans le cas d'une définition d'un customer journey, quel outil, par exemple, on utilise? Je ne sais pas, ça me fait penser à un atelier où j'avais participé et on avait utilisé, par exemple, une carte d'utilisateur pour identifier quelles sont les étapes. Quelles sont les personnes qui sont impliquées dans cette étape, quels sont les défis, quelles sont les émotions, opportunités et idées, tout ça. Je me demande si c'est d'autres types d'outils qui sont utilisés ou cette carte d'expérience
peut être utilisée. Non, les cartes, on fait simplement des cartes de personnes et on essaie de retracer la personne de là où il habite jusqu'à ce qu'il achète le produit et qu'il l'utilise. D'accord. Et on essaie de voir dans son environnement immédiat quelles sont les difficultés. Et ça se fait sous forme de cartes. Et ça se fait même sous forme de dessin. Parfois, on fait des encarts. On fait des encarts de carrés. Et sur les carrés, on dessine la personne X, la personne Y. Oui. Et après, on dit, OK, deux personnes qui habitent Dakar, mais qui n'habitent pas dans les mêmes localités. Celui l'un habite Pékin, l'autre habite Dakarville. Ils ont tous un trait en commun. Et comment aujourd'hui, ils arrivent à commander le service.
D'accord.
On dessine carrément le parcours utilisateur.
D'accord. On va prendre une dernière question. Il reste encore quelques minutes avant de clore. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main, soit écrire au niveau du chat ou activer votre micro et poser votre question.
Allô?
Oui.
Allô.
Oui.
Une dernière contribution pour comment dire, tout ce qui est customer journey, buyer persona, tout ça, faut aller sur HubSpot, qui donne de très bons tutoriels et des cours aussi sur tout ce qui est persona. Mm-hmm. Et pour faire les personas, il y a aussi un site de HubSpot aussi qui fait tout le processus pour le persona qui s'appelle Make My Persona, qui permettra de vous donner une idée générale de comment build un persona. Et il y a un lien que je vais partager tout à l'heure avec Mahadi pour le mettre directement. On partagera avec vous les liens. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer les liens après, Inch'Allah, pour. Moi, c'est ça que j'utilise pour faire le customer journey. Le buyer persona.
Le buyer persona, OK.
Le buyer persona et l'autre aussi. Ça s'appelle aussi. Je suis en train de l'utiliser aussi pour le buyer persona.
OK. Il y a beaucoup de ressources en ligne maintenant. Il y a de plus en plus de ressources en ligne. Il y a des bootcamps aussi en ligne que les gens font pour donner des tips. Il y a des bouquins aussi, par exemple, il y a Stanford qui a publié Design Thinking Activate la méthode il y a quelques mois, qui est sur Amazon, que les gens peuvent acheter et que je trouve dedans dans le livre. Il donne tous les outils, comment découper, comment rassembler, comment synthétiser, comment prototyper, et comment même faire des tests. Tout ça, à chaque étape, ils te disent ce qu'il faut faire. Donc, il faut juste se former sur la méthodologie et puis suivre les étapes.
Si tu veux revenir très vite sur le business model Canva, à quoi ça sert et pourquoi on devrait l'utiliser si on entreprend un projet, une initiative? Merci.
OK. Alors, rapidement, le business model Canva, on le fait avec des entrepreneurs qui démarrent. La première des choses, quand tu démarres, tu dois te poser 7 ou 9 questions. C'est quoi ma proposition de valeur? Mon idée, qu'est-ce que je vais faire comme produit ou service? À qui je vais le vendre, les clients, quel est le canal que je vais utiliser pour le distribuer aux clients, comment je vais gérer la relation client, qu'est-ce qu'il me faut en termes de matières premières ou de matériel pour pouvoir faire ce type de produit ou ce service-là, qui sont les potentiels partenaires, publics, privés, institutionnels, etc., financiers, etc., qui peuvent être autour du projet, qui peuvent m'accompagner. Quelle est la structure des coûts? Quand je parle des coûts, ça veut dire qu'il faut chiffrer le projet, combien ça coûte aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de fonds de roulement. En termes d'investissement, c'est pour acheter, si je dois faire une plateforme, l'hébergement, payer le développeur, payer à m'abonner pour qu'on puisse l'héberger, celui qui va mettre le contenu dessus, combien je vais le payer, combien ça me coûte, l'ordinateur que je vais utiliser, etc. Donc, tout ce qui est achat de matériel, c'est investissement. Après, tout ce qui va faire fonctionner le projet, c'est le fonds de roulement. Donc, quand vous travaillez sur ces deux éléments-là, vous chiffrez votre projet, c'est ce qu'on appelle la structure des coûts. Après, à côté, il y a la partie revenue. Si je fais tout ça, pour combien je suis en mesure de faire, combien de produits ou de services par mois et combien, à combien je vais les vendre. Je vais faire ce qu'on appelle la structure des revenus. Donc, quand on finit de remplir les 9 blocs, on a fait notre business model canvas. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme si on construisait une maison, on a posé les fondements, on sait à peu près la salle de bain, la cuisine, les chambres, la véranda, comment la maison va se structurer. Et après, on a un devis. On sait comment la maison, combien la maison va coûter à différents niveaux, à l'étape fondement, à l'élévation, et je vais finir la dalle et jusqu'à je vais faire la finition. Ça, c'est ce qu'on appelle un business model canvas. Maintenant, quand on finit de remplir ces 9 blocs, on le transpose, on le détaille. Pour chaque bloc, on le détaille, on le rassemble, on a un business plan ou un plan d'affaires ou un projet entre guillemets bancable quoi, qu'on peut présenter à un partenaire technique ou financier. Mais quand on réfléchit, quand on répond aux étapes du business model canvas, les 9 blocs-là, quand on répond à ces questions, c'est en ce moment-là qu'on dit que l'entrepreneur commence déjà à avoir des idées et à savoir là où il va. Et on peut maintenant commencer à discuter avec lui ou à l'accompagner pour mieux détailler ça sous un document de projet. Donc voilà un peu en gros le business model canvas et qu'on fait faire à des entrepreneurs au début quoi, ou qu'on fait faire à toute personne qui veut lancer une idée ou un projet.
D'accord, merci. Il y a une question sur le chat, Monsieur Bernard. Il peut partager le document.
Oui, la partie théorique, générique, présentation, je peux la partager. La partie exercice, la partie process, c'est un outil de... C'est mon modèle, c'est mon business model à moi, quoi, en gros, parce que c'est là où je le fais avec des entreprises. Je le fais sous format d'atelier et je vends ces ateliers-là.
Je pense qu'on va travailler en off, voir ce qui peut être partagé. On ajoute les liens de Alamine et des autres.
Ok, je vais partager. Ouais, donc la grande majorité du support avec tout ce qui est comment on le fait, etc. Je peux partager, ça y a pas de souci.
D'accord, y a pas de souci. Ouais. Vous avez des questions avant qu'on termine, des questions, des propositions, des suggestions, des interventions? C'est bon, tout le monde. Comment était la séance?
Je pense qu'il y a... Non, il y a... Si, il y a quelqu'un qui dit si, Amna a une belle proposition. Donc, on peut la prendre?
OK. Oui, vas-y. Qui devait être ton direct?
OK.
D'accord. Dina... Vidéo Bangui, je suis là. Sinon, les autres, c'est bon pour moi, Abdoulaye.
Mais à la fin, on peut mettre nos vidéos, pour au moins mettre des visages sur les noms, quoi. C'est toujours bien de savoir avec qui on a parlé. Peut-être jamais les gens pourront se croiser dans la rue. Voilà. Je pense qu'on peut. C'est plus vivant, en fait, quand on est en mode vidéo, quand on est en mode audio, quoi.
Exactement. Bon, on note ça pour les prochaines séances.
OK.
Inch'Allah, je parle sous contrôle de Mme Diara. Prochainement, nous allons parler de stratégie et de plan marketing digital. Nous allons vous revenir en ce sens. Et nous sommes à la fin de cette séance sur le design thinking. Un grand merci à Pabgan. J'ai reçu inbox beaucoup de remerciements, beaucoup de bons feedbacks. Et merci à toi. Merci également à toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter, d'échanger, de poser leurs questions et de rester jusqu'ici. Merci beaucoup à tout le monde. Je laisse la parole à Pape pour un mot de fin avant qu'on ne se dise au revoir.
Ben, écoutez, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté trop parler pendant plus d'une heure, mais j'espère qu'on en sort tous enrichis. Et puis voilà, et je vous invite à ceux qui sont entrepreneurs ou à rester résilients durant ces moments-là. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Chacun essaie de voir comment s'en sortir. Restez résilients et puis repensez un peu si vous vendez un produit ou un service, repensez un peu le modèle pour pouvoir continuer à faire face durant cette crise. Et on espère qu'on va s'en sortir très bientôt. Bon courage à tous et puis ça a été pour moi un plaisir d'échanger avec vous.